Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Bonjour, c'est Béatrice. Il paraît que l'homme descend du singe. Mais en l'état actuel des connaissances en phylogénétique, nous ne savons plus très bien si le chimpanzé est le premier sur l'échelle des hommes ou bien s'il est le dernier sur l'échelle des singes. Le chimpanzé sait compter, il sait se servir d'outils, il se reconnaît dans un miroir, il pleure, il boude, il rit. Bon, d'accord, il a quatre mains. Il ne marche pas tout à fait droit et son langage n'est pas articulé. Mais si l'on trouvait dans la nature une créature qui soit plus proche de l'homme que ne l'est le chimpanzé? C'est ce que Vercors imagine en 1952 dans son roman « Les animaux dénaturés ». En 1959, 7 ans après sa sortie, Vercors décide d'adapter son roman au théâtre. Il choisit d'en faire une comédie, qu'il qualifie en sous-titre de « comédie judiciaire, anthropologique et morale ». Oh, on est loin de la comédie légère! Mais avouons-le, cette pièce de théâtre est une comédie avant tout. L'humour est omniprésent, ironique parfois, dérangeant souvent, interrogateur. Vercors intitule son adaptation « Zoo » ou « L'assassin philanthrope ». Curieux titre pour une comédie, n'est-ce pas? Je vais vous lire un extrait de la première scène qui éclaire d'emblée le choix de ce titre. Imaginez, le rideau s'ouvre sur un berceau. Un homme marche sur la scène de long en large. C'est un journaliste prénommé Douglas. Il dialogue dans cet extrait avec un inspecteur arrivé chez lui à sa demande. J'ai tué mon enfant, inspecteur. Il a été baptisé, déclaré à l'état civil, enregistré à la mairie sous le nom de Gary Edward Templemore. Il ne peut pas disparaître maintenant sans laisser de traces. L'inspecteur se masse la nuque, fourrage dans ses cheveux. Sous quel nom a été enregistrée la mère? Femme indigène de Tumata, Nouvelle-Guinée. Fausse déclaration, dit l'inspecteur triomphant. Tout cet état civil est sans valeur, il est nul et non avenu. Fausse déclaration? Oui, la mère n'est pas une femme. Mais cela reste à prouver précisément. Mais ses parents trapus là, ce sont des singes, c'est vous qui l'avez dit. Mais je n'ai rien dit de tel. Alors bon sang, mais qu'est-ce qu'ils sont? Les opinions sont partagées. Quelles opinions? Sur quoi partager? Celle des anthropologues, sur l'espèce à laquelle appartient le Paranthropus. C'est une espèce intermédiaire, homme ou singe, il ressemble aux deux. Aux gorilles, aux orangs-outans, mais aussi à vous et à moi, de sorte qu'il se pourrait très bien que la mère soit une femme, après tout. À vous, cher inspecteur, de faire la preuve du contraire, si vous pouvez. En attendant, son enfant est mon fils, devant Dieu et devant la loi. Et je l'ai tué. Douglas a volontairement tué son fils. C'est donc un assassin, nous l'avons compris. Mais pourquoi le titre précise-t-il qu'il est philanthrope ? Philanthrope, cela signifie qu'il aime particulièrement les humains, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi assassiner une petite créature mi-homme, mi-singe ferait de lui un philanthrope ? Tout l'enjeu du procès qui va suivre répond à cette question. On pourrait croire que le décor de tribunal qui occupera le reste de la pièce rende les choses austères ou rébarbatives. Mais non, sur les 10 tableaux suivants, Vercors place tour à tour en avant-scène un bureau, un musée d'histoire naturelle et par deux fois un camp de chercheurs au beau milieu d'une jungle. Autant dire que la structure de la pièce et sa composition scénique sont loin d'être monotones. On y verra défiler des hommes de loi, bien sûr, mais aussi des hommes de science, comme un médecin légiste, un paléontologue, un géologue, plusieurs anthropologues, bien sûr, mais aussi un bénédictin, une petite dame quaker, un ex-colonel des Indes, et j'en passe. Vercors convoque tous ces personnages comme pour former une mosaïque de points de vue autour d'une simple question. Qu'est-ce qui définit un homme ? Douglas a provoqué ce procès afin que soit tranchée la question de savoir si ces tropies sont des hommes ou des animaux. Tropie, c'est la contraction de anthrope, l'homme, et pithèque, le singe. Évidemment, si le tropie est considéré comme étant un homme, Douglas sera pendu pour homicide. Dans le cas contraire, voici le risque encouru, exprimé par l'avocat de Douglas face aux riches propriétaires des terres où vivent les tropies. Votre société fermière étant propriétaire de toute la faune de Takura, si les tropies sont des singes, par conséquent, ils vous appartiennent avec le droit d'en faire ce que bon vous semble. S'ils étaient des hommes, au contraire, ils n'en constitueraient pas la faune, mais la population, laquelle échapperait alors à toute propriété. Et le propriétaire, qui prévoit d'en faire un élevage intensif afin de les employer comme main-d'œuvre gratuite dans la production de laine, de rétorquer. Existe-t-il une loi qui interdit l'emploi d'animaux domestiques pour soulager le travail humain ? On a tous en tête la façon dont les conquistadors espagnols ont considéré les Indiens d'Amérique. Vous souvenez-vous de cette scène du film de Roland Joffé intitulé « Mission » où les hommes blancs s'interrogent sur l'humanité des Indiens. Vercors n'évoque pas la beauté du chant des tropies, mais il aborde leur faculté à réaliser des outils, à enterrer leurs morts, à faire du feu. Puisque l'homme est le seul à pouvoir faire le feu, qui fait le feu est donc un homme ? Mais il n'y a pas 100 ans, vous auriez dit encore, l'oiseau est le seul à pouvoir voler, qui s'envole est donc un oiseau. 10 ans plus tard, ce n'était plus vrai. Quel est donc le propre de l'homme ? Dans son roman, Vercors s'amuse à évoquer les castors, qui construisent des digues et assainissent des marécages en véritables cités, plus salubres que Bruges ou Venise, précise-t-il avec malice. Il fait référence aux fourmis, qui conservent des champignons et assurent des élevages de pucerons très organisés. Instinct, intelligence. Dans sa pièce de théâtre, Vercors poursuit son questionnement. Quel est donc le propre de l'homme? Est-ce le rire? Les chimpanzés rient aussi, c'est indéniable. Est-ce le langage? Le bénédictin, que non sans humour Vercors a baptisé Pop, tente de répondre à la question. Les Grecs, voyez-vous, ont longtemps et vainement disputé pour savoir combien, au minimum, il fallait de cailloux pour former un tas. Était-ce 3, 5, 7, 9 ou davantage? Les Chinois ont 60 000 mots. Nous en avons 30 000. Les Zoulous en ont 7 ou 8 000. Les Bochimans 500 ou 600. Tout en bas de l'échelle, les Védas de Ceylan en ont 200 ou 250, qu'ils débitent à la queue le leçon la moindre ébauche de syntaxe. Est-ce encore un langage? Chez les Tropies, j'ai pu identifier jusqu'à présent 118 cris ou modulations distinctes, ayant chacun sa signification. Est-ce assez pour affirmer qu'ils parlent? Décidément, chaque argument nous laisse de plus en plus perplexes. Chaque proposition soulève en miroir la définition d'autres notions que l'on croit acquises. Le propre de l'homme, est-ce donc l'âme? Est-ce la pensée? Est-ce plutôt l'art? La question de l'art, comme définissant l'homme, est abordé au cœur de la pièce, lorsque tous les personnages décident de se rendre au muséum afin de voir des tropies et de se faire une idée en les observant directement. Nous en sommes au 9e tableau. Une grille est dressée sur le devant de la scène. Les jurés s'approchent de la grille et observent le public avec de grands yeux ronds, précise l'auteur. L'effet de mise en scène laisse à entendre que les tropies, s'ils étaient là, seraient à la place des spectateurs. Vercors invite donc ses acteurs à examiner les spectateurs longtemps et avec perplexité. Parmi les visiteurs, au même moment, se trouvent un gentleman et un moustachu qui s'interrogent ainsi à propos des tropies. L'art des cavernes, dit un gentleman. Les hommes meurent, les civilisations aussi. Que reste-t-il des peuples disparus, même des Égyptiens, des Grecs, des Romains? Les œuvres des artistes. L'histoire est un tombeau, l'homme, c'est l'art. Tout le reste est silence. Un moustachu prend la parole. Très bien, mais l'art, alors? C'est quoi? Définition. Pas besoin de définir l'art, répond le gentleman. Tout le monde sait ce que c'est. Alors, pas besoin de définir l'homme, reprend le moustachu. Tout le monde sait ce que c'est. L'air de rien. Vercors remet ainsi en question le fondement même de toutes les disciplines issues des sciences humaines. Non content de dépoussiérer le dictionnaire de nos évidences, Vercors pointe du doigt la pertinence de cette manie humaine qui consiste à tout répertorier et classer. Les plus sérieux débats, scientifiques ou non, aboutissent en définitive au constat de notre impuissance à définir l'homme. Au plus fort de la perplexité ambiante, le géologue Krebs remarque fort à propos. Quand, au lieu d'observer, on se met en tête de prouver, on est fichu, on ne fait plus que des bêtises. Le titre de ce livre, prend tout son sens. Douglas est donc bien philanthrope. Il est prêt à mettre sa propre vie en jeu pour donner au débat tout son poids. Il cherche à mettre à jour une pleine conscience de ce qui fait l'homme. L'éventualité de sa mise à mort joue un rôle de révélateur pour chacun des personnages et nous pousse, nous, lecteurs, jusque dans les questionnements les plus essentiels. Voici, pour terminer, des extraits du roman de Vercors intitulé « Les animaux dénaturés » à partir duquel il adapte sa pièce de théâtre. Pour interroger, il faut être deux, celui qui interroge et celui qu'on interroge. Confondu avec la nature, l'animal ne peut l'interroger. L'animal fait un avec la nature, l'homme fait deux. Pour passer de l'inconscience passive à la conscience interrogative, il a fallu ce schisme, ce divorce, il a fallu cet arrachement. L'animal ignore sa propre ignorance. Tandis que l'esprit de l'homme, arraché, isolé de la nature, comment ne serait-il pas, à l'instant, plongé dans la nuit et dans l'épouvante? Il se voit seul, abandonné, mortel, ignorant tout. Unique animal sur terre, qui ne sait qu'une chose, c'est qu'il ne sait rien. Pas même ce qu'il est. Vercors écrit cette histoire au moment où la science-fiction connaît son plein essor en France. La première représentation de cette pièce date de 1959. On ne peut s'empêcher de faire le lien avec le roman de Pierre Boulle, écrit en 1963, « La planète des singes ». Je me souviens de quelques répliques célèbres, extraites de La planète des singes, qui semblent reprendre en écho les problématiques soulevées par Vercors. Qu'est-ce qui caractérise la civilisation? Un chapitre entier de la dernière partie expose les pensées du héros que Pierre Boulle a baptisé Ulysse. On est dans le prolongement direct du questionnement de Vercors. Notons que l'année de sortie de la première adaptation au cinéma de La planète des singes est la même que celle de la sortie du film de Stanley Kubrick, 2001, L'Odyssée de l'espace. Tiens, j'y pense. Ne voit-on pas des singes, là aussi, dès les premières images ? Tropie or not tropie, dirait Shakespeare face au crâne de cette créature étrange. Tropie soit, qui mal y pense. Vercors s'amuse à inventer des titres de journaux qui nous font sourire. Je ne vous ai pas dévoilé l'issue de ce passionnant débat. Une idée simple tranchera la question sans pour autant prétendre la résoudre. Sauriez-vous la deviner ? Douglas sera-t-il pendu? Les tropies seront-ils exploitées, telles des animaux? Je vous invite à découvrir tout cela en lisant ce livre sous forme de roman ou en allant voir sa représentation au théâtre. Je vous retrouve, quant à moi, sur le quai d'embarquement vers d'autres destinations littéraires, en compagnie de Marie, qui assure le mixage de nos émissions et toutes les images qui les accompagnent. Je vous donne rendez-vous sur notre site, intitulé « Tout avec presque rien ». À bientôt.